De Radio Classique avec David Abiker.
Et à 9h moins quart, on retrouve nos esprits libres. Et ce matin, Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste, dramaturge et comédien. Éric Le Boucher, éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Merci
bonjour.
D'être là. Je voudrais commencer avec l'élection de Javier Milei, parce qu'on n'a pas fini de découvrir ou d'être surpris par cet homme, la façon dont il a fait campagne, et puis maintenant la façon dont il va exercer le pouvoir. Une personnalité et son programme, comme Pepe Grillo, un peu cet homme, comme Trump, et aussi comme Zelensky. On oublie de citer Zelensky dans les éléments de comparaison, mais avant la politique, ils avaient pour point commun avec Javier Milei, c'est d'être des bêtes médiatiques.
Ah bien sûr, et même des bêtes du système de distraction ludique. C'est l'entertainment qui triomphe. Ils arrivent soit par la fiction comme Zelensky, soit par l'humour comme Pepe Grillo, soit avec Javier Milei par un mélange de tout cela, puisque il a commencé comme économiste ébouriffé sur les plateaux télé, après avant de devenir une star des réseaux sociaux aussi avec ses vidéos, puis de passer en politique. Donc on voit qu'on a un cocktail de légitimité politique nouveau. Il s'agit plus comme dans le temps passé de faire des livres ou de faire des grandes écoles comme avec la technocratie. Non, c'est totalement nouveau. Est-ce que ça a moins de valeur? On n'a pas mis un pistolet sur la tempe de ceux qui ont voté pour lui. Donc, ne dénigrons pas le peuple et la démocratie parce que la démocratie nous envoie de tels produits. Je vois Sandrine Rousseau dénoncer le carbo-fascisme, puisque, évidemment, il remet en cause le réchauffement climatique. Mais c'est-à-dire qu'à travers cette injure, elle remet en question la pertinence du choix des Argentins et la légitimité des Argentins à voter pour qui ils veulent. On devrait plutôt s'interroger sur ce qui a poussé les Argentins à choisir un modèle aussi extrême que Milei, c'est-à-dire l'échec de toutes les autres politiques.
Et 140% d'inflation, Éric Le Boucher.
Oui, pauvre Argentine. Souvenez-vous quand même, l'Argentine, c'était une puissance les plus riches du monde il y a exactement 100 ans, et elle n'a cessé de se dégrader ensuite. Et j'ai peur que ce soit un autre mauvais coup avec quand même ce zozo je crains, ne se révèle pas comme Zelensky, mais au contraire, puisque il est quand même être anarcho-capitaliste, c'est quand même un peu le contraire, c'est comme si on était communiste élitiste. Donc je crains qu'il y ait une confusion totale dans ses idées et que ce soit surtout pas le moment de plonger un pays déjà appauvri, etc., dans le chaos monétaire et économique. Je crois, hélas, que ça va mal se passer.
Ce qui est fascinant, c'est quand même le renoncement à la monnaie nationale. C'est comme si, ceci dit, en France, on a bien renoncé au franc, mais là-bas, renoncer à une monnaie nationale pour s'arrimer à la monnaie de ce que la gauche sud-américaine appelle depuis 60 ans la puissance impérialiste, en l'occurrence les États-Unis et leurs dollars, c'est surprenant ou pas? Ou il y a eu des expériences comparables?
Il y a eu des expériences ratées à chaque fois. C'est pas possible qu'une économie, qui est devenue sous-développée en Amérique latine et qui n'a absolument rien à voir avec l'économie américaine. Elle repose en Argentine essentiellement sur l'agriculture et des matières premières. Donc, il n'y a pas la puissance derrière. Et donc, elle n'est pas en le même cycle que les États-Unis. Et donc, avoir la même monnaie, on a déjà eu du mal avec la Grèce. Ça ne marche pas avec l'Argentine. Ça ne marchera pas.
Comment expliquez-vous la relative bienveillance des marchés financiers et de certains think tanks américains par rapport à son programme économique?
Les think tanks, j'en sais rien. Les marchés financiers, ils ont déjà beaucoup baissé.
Ouais.
En anticipation. Donc, c'est déjà dans les cours, comme on dit. Et on va voir. Ce président de la République, pour l'instant, n'a pas beaucoup de moyens puisque il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et encore moins au Sénat. Donc, on va voir ce qui va se passer. Il faut qu'il fasse une coalition. Est-ce qu'il va abandonner tout ce qu'il promettait? C'est comme souvent les populistes, une fois arrivés au pouvoir, ils deviennent forcément, les faits sont là, un peu plus réalistes. Là, il va devoir abandonner beaucoup, beaucoup. Il a déjà abandonné les ventes d'organes et je ne sais quelle autre connerie encore. Les ventes libres d'organes, je veux dire.
Ça m'a coûté un bras, on ne pourra pas dire ça.
C'est ça, et là, ça va leur coûter la tête, peut-être, puisque c'est la monnaie.
Il faudra surveiller dans son entourage deux personnes, sa vice-présidente et puis sa sœur, la fameuse Karina qui a piloté la campagne. campagne. C'est un président qui, en effet, n'aura pas les moyens politiques de son programme délirant, puisqu'il doit passer des accords avec d'autres forces, et il n'aura peut-être pas les moyens psychologiques de son action. Donc, il faudra voir comment son entourage va le marionnettiser, peut-être.
Question à tous les deux, est-ce qu'un président doit nécessairement ressembler à sa campagne, c'est-à-dire à campagne outrancière, présidence outrancière? On a quelques précédents avec Trump, mais Trump n'a pas été qu'outrancier une fois au pouvoir. Il a pris un certain nombre de décisions qui pouvaient être tout à fait rationnelles et considérées comme bénéfiques pour le pays.
L'histoire de toutes les présidentielles dans toutes les démocraties, c'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'un contraste entre les promesses de campagne et la réalité de l'exercice du pouvoir. Ça a été vrai avec Chirac et la fracture sociale chez nous. Ça a été vrai aussi avec Obama, qui n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire.
Ils n'ont pas fait des campagnes outrancières et de clown, si j'ose dire.
Mais les populistes ont le même retour sur Terre. Donc, ceux qui sont dans les délires à la Javier Milei, eh bien, sont rattrapés après par quelque chose qui s'appelle la réalité. Par ailleurs, dans les grandes démocraties, et de ce côté-là, l'Argentine est peut-être fragile, il y a d'autres institutions qui permettent de résister au choc de l'arrivée d'un populiste.
J'aimerais qu'on parle de la situation française. Comparée à l'Argentine, la situation française pourrait passer pour un modèle de gestion rigoureuse, mais non, 3 000 milliards de dettes, la France qui attend la notation de Standard & Poor's la semaine prochaine, et Bruno Le Maire qui ne cache pas son inquiétude sur la charge des intérêts de la dette, 40 milliards cette année, 70 milliards en 2027. La France doit, elle aussi, être raisonnable.
Oui, mais c'est pas être raisonnable. Moi, la quantité de dette, ça m'importe peu, 3 000, 2 000, c'est la charge. Combien ça nous coûte chaque année? Que dans quelques années, le budget de l'éducation nationale soit dépassé par la charge de la dette, c'est-à-dire par les intérêts que l'on rembourse, c'est ça le signe de la mauvaise gestion. Alors face à cela, faut pas être raisonnable, faut même pas être rigoureux. Faut être quand même dans le devoir de dire la vérité aux Français. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à régler notre problème de déficit public? C'est le coût de notre modèle social. Alors, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier dans notre modèle social pour sortir de ce piège financier? Pas la santé, c'est évident. La santé, on dépensera toujours plus parce que c'est fondamental. En revanche, on voit que sur toutes les aides par rapport à ceux qui ne veulent pas reprendre d'emploi, par rapport à ceux qui demandent un peu de temps, par rapport à ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, là, il faudra avoir un discours de vérité. Il faut qu'à un moment donné, les Français se disent, c'est à nous de nous prendre en charge avant de se tourner vers l'État. Vous avez en Argentine des gens qui disent, tous les matins, on se lève pour bosser, pour nourrir notre famille. On n'attend pas l'État. Alors, n'attendons pas, nous, d'être réduits à l'état de crise argentine pour se poser la même question.
Éric Le Boucher, je voudrais m'arrêter sur une chose qu'a dite Christophe Barbier. Ce qui l'inquiète, c'est les intérêts de la dette et pas le stock de dette. 2000, 3000, ça peut faire bondir certains de nos auditeurs. Est-ce que vous êtes sur cette ligne?
Non, il a raison. C'est vrai que c'est ce qu'on rembourse. Un État, c'est pas une entreprise ou un ménage. Il peut ne jamais rembourser sa dette. Il la roule, comme on dit.
C'est ça. Enfin, nous, on la roule de plus en plus comme une grosse boule de neige, quand même.
Nous, les gens ou
la France. La dette française, oui.
Oui, c'est vrai, mais enfin, ce qui est important, c'est qu'on a changé d'époque à cause des taux d'intérêt qui étaient presque nuls, ou voire négatifs parfois. Donc ça coûtait rien d'emprunter. Aujourd'hui, ça va coûter. Et quoi qu'on dise, sur l'inflation, sur le recul de l'inflation, ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle période où l'argent va coûter. C'est par rapport à l'argent gratuit d'avant. Et donc, l'argent qui coûte, ça change beaucoup, beaucoup de choses, à commencer par l'État. Et donc, c'est vrai que le problème du modèle social, c'est la petite comparaison possible avec l'Argentine. Si l'Argentine a voté pour ce zozo, c'est aussi
vous l'aimez pas, hein.
Par dégagement. Non, je l'aime pas. C'est-à-dire, je pense qu'il va, il peut pas marcher, ça peut pas marcher. Par dégagisme du péronisme, c'est-à-dire cette vision populiste de gauche où on règle tout à coup de subventions. La France est un peu populiste de gauche dans ses gènes, depuis maintenant 40 ans, 50 ans, et le risque est le même, si vous voulez, avec les taux, c'est que on soit forcé, les pays dans les reins, de régler des problèmes sociaux, de régler les problèmes de compétitivité qui ne sont pas encore complètement réglés, Et donc, ça risque de mal se passer.
Ce qui est curieux, c'est que dans l'offre politique du moment, il n'y a pas encore en France un homme politique qui sorte en disant « Moi, je vais vous couper les vivres, je vais tailler dans les budgets ». Ça n'est pas un discours politique que
la tronçonneuse.
La tronçonneuse budgétaire, ça n'existe pas en France. Même à droite libérale, c'est...
D'abord, on n'est pas un pays de tradition libérale ni ultralibérale, même la droite chez nous ne l'est pas. En revanche, vous avez entendu chez certains candidats de droite extrême, je pense à Éric Zemmour, des propos qui sont aussi ceux de Milei. Quand Milei veut supprimer l'audiovisuel public et l'agence de presse en disant c'est pas à l'État de financer de l'information. Vous aviez ça aussi, programme de privatisation, de vente, de sortie de l'audiovisuel public chez Zemmour. Donc vous verrez qu'un jour ça viendra et les Français se diront, bah c'est vrai, pourquoi notre argent sert à payer l'AFP, sert à payer l'audiovisuel public, sert à payer l'opéra, la culture, voilà. Et donc il faudra résister à cette tentation de faire sortir l'État d'endroits où il est pourtant nécessaire.
Je voudrais qu'on termine sur un paradoxe, c'est le congrès des maires de France, le salon des maires de France également. Le maire, autrefois homme politique le plus populaire en raison de sa proximité auprès des Français, les Français vraiment plébiscitaient ce maire qui est à côté d'eux, qui leur rendait service. Et les maires aujourd'hui font un congrès sur le thème du blues, commune attaquée, république menacée. Il s'est passé quelque chose qui sidère.
La violence. Il s'est passé que les maires sont violentés. Mais alors par combien de leurs administrés ? Quelle est la proportion des gens qui sont devenus ultra-violents et qui déposent des poubelles, qui envoient des insultes, etc. Peut-être 10%. C'est déjà énorme. Hein.
C'est la proue.
Oui, si vous voulez. J'espère que c'est pas la proue. J'espère que c'est une exception. Mais enfin, cette exception, elle fait mal. Donc, il faudrait s'occuper de ces 10%. Comment on fait ? Je ne sais pas. Et puis... l'autre problème des maires, c'est l'impuissance. Il y a la violence et l'impuissance. L'impuissance parce que c'est les millefeuilles considérables de France où il y a le maire, il y a les intercos, il y a les préfets, il y a les régions, etc. Et il y a l'État, bien entendu. Donc, tout cet ensemble fait que le maire est prisonnier, il peut pas faire grand chose. Enfin, il y a pas mal de modes aussi. Il y a eu les modes des ronds-points, les modes. Donc, il faut la gestion pour les maires devient très très complexe pour ça.
On a retiré du pouvoir financier aux maires puisqu'ils n'ont plus la taxe d'habitation. On a retiré du pouvoir juridique puisque le préfet décide de tout, les normes écrasent tout. On a retiré du pouvoir politique, il n'y a plus de cumul des mandats. Il faut leur rendre un peu de tout cela. Et le maire de Neuilly l'illustrait dans une tribune dans l'Opinion cette semaine. On a trop tiré le maire vers le pragmatisme. Le maire, il doit réparer les trous dans les trottoirs. Et on a enlevé un peu la part de rêve et d'idéalisation. C'est-à-dire, le maire, c'est l'homme qui incarne l'intérêt général. Et chacun dans la commune doit se plier à l'intérêt général. J'ai pas droit à contre la collectivité.
Et on pourrait les payer mieux aussi. Ce sera l'objet d'un autre débat. Éric Le Boucher, merci. On vous lit dans la tribune, dans les Échos et l'Opinion, pardon. Et Christophe Barbier, Mozart, Mon d'amour, une pièce que vous avez écrite et mise en scène. C'est au Théâtre de Poche jusqu'au 4 mars prochain. Je vais aller la voir, à suivre la météo, le flash d'Augustin Lefebvre et Franck Ferrand raconte. Messieurs, merci.